Bonjour à toutes et à tous. Je ne dis pas que j'ai encore repéré tous les visages. Ce serait un petit peu exagéré de ma part. Mais enfin, on commence à se connaître, hein, et c'est bien. Et puis, je dirais aussi que j'ai beaucoup de joie pour l'accueil qui m'est fait à chaque fois que je viens. Et je l'apprécie, parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément dites, mais qui constituent quand même un lien extraordinaire. Se retrouver avec des frères et sœurs, ça c'est grand. Et peut-être qu'au fond, nous sommes des grands privilégiés dont nous ne nous rendons pas compte. Parce que croyez-vous qu'il y en ait beaucoup dans le monde qui puissent avoir ce genre de rapprochement qui nous est donné par quelqu'un qui est au-dessus de nous et de plus grand. Ben finalement, je me dis, je ne me rends pas compte, mais tu es un immense privilégié. Je parle de moi et je vous dis franchement, ça doit être pareil pour vous. Que Dieu soit béni. Alors, ce matin, oui, bien sûr, il y a une pensée qui est dans mon cœur et j'aimerais particulièrement essayer de compter sur le Seigneur pour qu'elle se développe, pour qu'elle s'applique aussi, dans la mesure où je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien. J'aimerais vous parler de l'école de Dieu, lorsque Dieu choisit quelqu'un pour le servir. Cette école, elle commence un jour et elle finit le dernier jour de vie. Je veux dire par là qu'à l'école de Dieu, c'est tout le temps. Ça a commencé pour vous, ça a commencé pour moi, mais ça continue. Et ça n'est jamais terminé, jusqu'au moment d'aller dans le repos céleste. Alors, c'est déjà quelque chose. Ah, au fait, vous allez dire, alors de qui il va nous parler ? Pas d'un illustre inconnu quand même, non. Mais enfin, de quelqu'un dont la Bible me parle assez abondamment par petits. Et pourtant, je suis sûr que j'en connais très peu sur lui. Dieu ne nous a donné que l'essentiel pour que ça nous serve. J'aimerais partager avec vous l'école de Dieu pour un certain Simon Pierre. Vous connaissez ? Un petit peu, hein, quand même. Hein. Voilà, je n'en doute pas. Eh bien, écoutez, Simon Pierre, pourquoi ? Parce que d'abord, si vous voulez des vies contrastées, vous allez bien tomber. C'est le contraste extraordinaire. J'ai d'ailleurs remarqué une chose, c'est qu'on peut beaucoup prêcher sur Pierre et ses paroles ou ses actes. Alors, tantôt, on le décrira comme un misérable, comme un indigne, ou alors comme l'homme de Dieu, élevant la parole de Dieu avec une puissance et une efficacité unique et remarquable. Vous pouvez cela, oui. Pourtant, ça paraît opposé. Et c'est pour cela que j'aimerais voir avec vous l'école de Dieu. Comment Dieu s'y prend pour parler avec un homme comme Simon, comme Pierre, et comment il s'y prend aussi avec nous. Parce que si vous aimez les contrastes de la vie de Pierre, rassurez-vous, avec un peu de soin, vous allez trouver des contrastes chez vous. Ah, ça, c'est comme ça, hein ? Alors, je vais parcourir, vous allez voir, on va prendre quelques versets de temps en temps, et puis on va essayer de se conduire ainsi, de se laisser conduire. Les premiers passages que je vais prendre, bien, ça correspond à l'appel de Pierre. Dans Jean, au chapitre 1er et au verset 40, voici ce que nous allons trouver. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, le Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère, Simon, et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Voilà le premier témoignage de la rencontre de Pierre avec son Seigneur. Et maintenant, eh bien, j'aimerais tout de suite prendre un autre passage justement de cette période dans Marc 11. pardon, Marc 1er. Moi, quand j'écris mes chiffres, j'ai intérêt à bien regarder. Marc 1er, chapitre 1er, verset 16. Je me disais, comment j'ai été chercher la conversion de Pierre au chapitre 11. Je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Non, non, c'est Marc 1er et verset donc que nous allons tout de suite voir, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen. Je m'arrête là. Vous avez remarqué qu'on pourrait s'étonner de voir qu'il y a presque comme une petite différence dans les détails entre le même moment de l'appel qui a résonné dans le cœur de Pierre. Mais finalement, je suis très content de voir que ça complète. Dans l'évangile de Jean, on a la relation un peu personnelle, l'attitude particulière de Jésus vis-à-vis de Pierre. Et puis, dans l'évangile de Marc, on a les conditions. Jésus les voit en train de s'occuper de leur filet, ils sont là comme des pêcheurs du lac de Galilée, et il leur dit qu'une chose, allez, suivez-moi. Et il laisse tout et le suivirent. Il y a quelque chose de grand dans les mots très simples de la parole de Dieu. Très grand dans l'évangile de Jean, quand on voit Jésus regarda. Il regarde Pierre. Vous savez, je réalise que lorsqu'on rencontre Jésus, on ne se rend pas vraiment compte tout de suite que c'est lui qui nous a vus. C'est lui qui nous regarde. Et quand Jésus voit cet homme-là, Simon, fils de Jonas, il le regarde. Et ce qui me semble extraordinaire, c'est qu'en le regardant, il le perce. Il le connaît. Et je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans la réaction que Pierre va avoir dans ces moments-là. Parce que son frère lui a dit, nous avons trouvé. Vous savez, c'est pas rien. Nous avons trouvé le Messie. Nous lisons cela parce que nous connaissons la Bible, ça nous paraît évident. Mais vous imaginez, à la place d'un juif pieux, ça fait plus de 3 siècles que les prophètes se sont tus. Et un grand silence dans la vie d'un peuple qui est habitué à entendre Dieu préparer les choses et qui a entendu, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera pour vous le conducteur loin, le Messie. On l'attend, on le croit. Certes, depuis quelque temps, un homme s'est levé et lui aussi, il annonce, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, c'est Jean le Baptiste. Alors, il y a des hommes qui se pressent auprès de lui et on voit que d'ailleurs, il y avait une certaine foi dans la famille de Simon et d'André, puisqu'il faisait partie de ces gens qui, avec 2 autres pêcheurs d'ailleurs du lac de Galilée, hein, qui s'appelaient Jacques et Jean, bien, ils s'étaient vraiment approchés de Jean pour devenir quasiment ses disciples. Ils avaient une réaction. Et ça me fait plaisir, parce que quand Jésus a rencontré Pierre, il a d'abord vu ce juif pieux, cet homme pieux, qui avait le désir de voir la bénédiction venir sur Israël. Vous savez, il ne faut pas se tromper. Si vous ne voulez pas de la bénédiction de Dieu, vous allez vous en passer. Mais si vous la voulez, Dieu voit votre besoin. Dieu voit votre désir. Et Jésus a vu l'homme qui était devant lui et qui attendait la bénédiction de Dieu. Alors, il va lui ouvrir la porte. Je peux vous dire une chose qui va venir tout au long des passages que nous verrons, c'est que Pierre ne savait certainement pas la méthode que Jésus emploierait. Il ne connaissait pas du tout la manière dont Jésus allait s'y prendre, mais il voulait croire. Et quand Jésus lui a dit « Suis-moi », il a tout laissé et il est parti avec lui. Tout commence un peu de cette manière, mes amis. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des gens qui sont venus vers Jésus qui lui ont dit « Nous, on veut bien te suivre, Seigneur ». Et Jésus a une attitude qui m'a toujours étonné. Il y en a certains à qui il a dit « Non, non, attends ». Tu n'as pas bien compris ce que ça veut dire, ce que tu dis là. Il y en a un qui lui a même dit, mais laisse-moi d'abord enterrer mes parents, je veux honorer ce qui est dit dans la loi, et puis après je viens. Et à chaque fois, Jésus leur disait en quelque sorte, non, ce n'est pas comme ça, me suivre. Me suivre, c'est, tu es en train de t'occuper de tes filets, laisse-les et suis-moi. Terrible. Alors, je ne veux même pas parler de choses matérielles en disant cela, je veux parler d'une attitude de cœur. Quand on décide de suivre Jésus, il faut le suivre vraiment. sans s'en rendre compte, on a suivi toutes sortes d'autres exemples. Les uns ou les autres, selon notre passé, nous avons suivi. Nous avons imaginé. Et puis, à un moment donné, c'est la rencontre avec Jésus. Et l'école commence. L'école qui va commencer pour Pierre est assez extraordinaire. La première fois que je vais vous en reparler un peu plus tard, je vais vous parler de cet évangile de Matthieu au chapitre 8. Matthieu au chapitre 8 et au verset 14. Vous allez voir, je vais vous en faire parcourir comme ça un bon nombre ce matin de petits versets. Hein, 8, 14 dans Matthieu. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Voyez-vous, ce verset a l'air de rien, mais il marque une étape fondamentale dans la vie et dans l'entourage de Pierre. Jésus se trouvait dans cette maison, pourquoi ? Parce que Pierre lui avait dit à Capernaum, si tu as besoin d'une maison, c'est la mienne, vas-y, entre. Et tout au long des évangiles, on regarde après, on voit que Jésus a été souvent à Capernaum. Et qu'en fait, c'est dans la maison de Pierre qu'il se retrouvait. Il y avait dans le souci de Pierre, un souci de... Alors on appelle ça l'hospitalité. C'était très courant en Israël, il faut le dire à l'époque. Mais c'est plus que cela. Seigneur, ma maison, c'est la tienne. Je trouve que l'école de Pierre était bien commencée. Quand on commence à dire « je vais suivre le Seigneur », c'est pour lui dire aussi « écoute, maintenant, sens-toi à l'aise, viens chez moi et entre. Viens. » Alors, vous allez me dire « oui, mais c'était gagnant. Hein. » Quand vous avez une belle-mère qui est malade et que Jésus vient et puis qu'il l'a guérie, et puis qu'elle se met immédiatement d'une tellement grande guérison à le servir, non, non, c'est pas que cela. C'est maintenant, Seigneur, prends la place qui te revient. L'école de Dieu commence par un engagement, mais elle doit aussi être une école où il y a de la place pour Dieu, pour le Seigneur. Une place que Pierre n'imaginait pas. Je n'ai jamais imaginé non plus, mais une place bien réelle. Parce que, à votre avis, quelle est la place que Jésus veut prendre dans votre vie ? 10%, ça vous suffit ? Heureusement que vous n'avez pas dit oui. Hein. Toute la place. Et ça n'est pas rien. Et dans l'attitude de Pierre, il y a quelque chose qui me réjouit, c'est qu'on sent déjà cette attitude extraordinaire de l'homme qui veut vraiment que Jésus ait beaucoup de place. Oui, mais ça ne suffit pas. Il va suivre un maître dont il a bien du mal à tout comprendre et il va aller de l'avant, mais très rapidement, il va se rendre compte qu'il a besoin de beaucoup plus de certitude. Et là, j'aimerais insister sur l'homme Pierre qui a besoin de certitude. Pourquoi j'utilise ce mot aujourd'hui ? Parce que vous savez, j'écoute beaucoup de choses autour de moi et inévitablement dans le monde. Je me suis aperçu que le mot certitude devient un gros mot. Il ne faut pas avoir de certitude, disait, et ce n'était pas quelqu'un, non, c'était un philosophe renommé, hein, extrêmement réputé et reconnu. Non, 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 mais il y a vraiment des gens un petit peu limités qui croient aux certitudes. Non, il ne faut pas de certitude. Il faut toujours avoir une espèce de l'inconnu devant soi, comme ça on avance. Et on tombe, et aussi. Non, ça c'est moi qui l'ajoute. Hein. Je bénis Dieu, parce que mon Dieu est le Dieu des certitudes. Et je vais avec vous dans l'évangile de Matthieu toujours. Nous allons maintenant au chapitre 14 et au verset 28. Un moment très particulier de la vie des disciples. Hein. Ils sont dans l'effroi parce qu'ils sont partis en barque et Jésus leur a dit qu'il les rejoindrait plus tard. Et là maintenant, Jésus s'approche d'eux mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ont peur. Il transforme tout cela en image incroyable de fantôme, de tout ce que vous voudrez. Vous savez que dans leur cœur, c'est l'image de la mort qui est aussi là. Alors, ils sont dans l'effroi total. Ils poussent des cris. Et en Matthieu 14, verset 28, ils entendent une parole de Jésus. « N'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Alors Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme, de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je vous ai dit qu'il y a des contrastes extraordinaires dans la vie de Pierre. Et je ne vais pas me faire le juge de Pierre ce matin. Je vais essayer de comprendre ce qui est dans un cœur humain. Je vous ai dit, Pierre avait besoin de certitude. Il ne pouvait pas rester dans l'à-peu-près. Il ne pouvait pas rester dans une évaluation un peu brouillonne. Et dans l'effroi où ils sont tous sur ce bateau, il va avoir une parole assez remarquable. « Si c'est toi, et je voudrais m'arrêter un instant sur cette parole, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi et que je marche sur les eaux. » Il y a un contraste extraordinaire, parce que l'épisode est très court, il va se terminer par une parole de Jésus, « Homme de peu !» Et moi je me dis, « Seigneur, c'est incroyable. Qui aurait dit et osé dire, « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi ?» Moi je peux dire, ça c'est de la foi, hein. C'est une foi extraordinaire. Quand même, ce n'est pas donné à tout le monde de dire cela. Mais vous, il y a en fait dans ce passage et dans le besoin de certitude de Pierre quelque chose qui m'aide beaucoup à comprendre la nature humaine. La nature humaine, elle est faite de telle sorte qu'elle prononce des paroles dont elle ne mesure pas toujours l'importance. Si c'est toi, à cette parole, Jésus pouvait répondre, viens Pierre, tu vas te rendre compte que c'est bien moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la même période, dans la même minute pratiquement, Pierre était capable de dire « si c'est toi », mais de se regarder sur l'eau et de dire « c'est pas possible, il y a quelque chose de pas normal, je suis en train de marcher sur de l'eau » et il s'enfonce. Et Jésus lui dira « homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous savez que ce qui est extraordinaire, c'est que parfois nous avons des paroles, quand les autres nous entendent, « oh là là, alors là, pasteur Forêt, il a une foi, extraordinaire !» Mais Dieu ne se trompe jamais sur nos paroles. Elles peuvent être une illusion. On peut avoir des paroles d'une foi extraordinaire qui ne reposent pas sur la capacité totale de croire à la puissance de Jésus. Parce que quand Pierre disait « si c'est toi », il regardait Jésus. Mais quand il marchait sur l'eau, il regardait l'eau. Et là, ça ne fonctionne plus. Je crois, frères et sœurs, que l'école de Pierre, elle a été extraordinaire. Parce que d'abord, Jésus lui a tendu la main. Vous imaginez ce qui serait passé si Jésus lui avait dit « homme de peu de foi, débrouille-toi ». Et vous savez, si Jésus commençait à dire à chacun de nous « homme ou femme de peu de foi, débrouille-toi », il n'y en a pas un qui serait là ce matin. Ah oui, débrouille-toi, plouf. Pourquoi as-tu douté ? Pourtant, les autres disaient « alors là, lui, il dit quelque chose que je n'aurais pas dit ». J'aurais pas osé dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et c'est une réalité. Notre foi a besoin d'être profondément ancrée sur la personne de Christ et non pas sur nos illusions. Parce que c'est facile d'avoir des illusions. Je peux me prendre pour le grand prédicateur qui va amener le réveil. Je parle de moi. Hein. Rien, déjà, c'est pas mal. Hein. Et puis après, un jour ou l'autre, je me dis, il faudrait peut-être que je commence à vivre un petit peu dans le concret. Je peux dire, Seigneur, si c'est toi, fais que, toute la ville de Toulouse se convertisse. Vous savez, je ne suis pas du tout en doute sur la capacité de Dieu à faire des choses qui me dépassent. Mais ça, il faut dire aussi que c'est des fois prendre ses illusions pour la réalité. Et j'ai besoin de cette école de Dieu, où je mesure que ce n'est pas des paroles d'ambition humaine, qui sont vraiment la foi, mais la confiance totale dans la personne de Jésus. Rassurez-vous, il n'y a pas que ça dans la vie de Pierre, et si je m'arrêtais là ce matin, vous seriez profondément déçus, et je le comprendrais. Il y a une disponibilité qui est dans la vie de Pierre assez extraordinaire, et que nous connaissons bien, mais je vais la rappeler, dans Matthieu, au chapitre 16. Vous allez retrouver aussi cette parole d'une manière assez remarquable. Matthieu au chapitre 16, c'est un moment particulier où les hommes se posent beaucoup de questions sur Jésus. Et les bruits viennent aux paroles, aux oreilles du Seigneur, le bruit vient et il va finir par poser cette question assez extraordinaire à ses disciples. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors les disciples vont répondre en fonction de tout ce qu'ils imaginent et de tout ce qu'ils ont entendu. Il y en a qui lui disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Parce que tout le monde sait que Jean-Baptiste a été tué par la volonté d'Hérode. Les autres, Élie, le grand prophète. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Ah, il y a une espèce de liberté totale. Vous remarquerez qu'il y a, finalement, Jésus a dit, moi le Fils de l'homme, il n'y en a pas un qui ne donne la bonne réponse. Et vous maintenant, vous m'avez dit ce que vous avez entendu. Qui dites-vous que je suis ? Eh bien, il y en a un qui va avoir une parole spontanément. Et c'est justement Simon, Pierre, qui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec ça, vous avez votre diplôme. Mais Jésus va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Alors, Simon, c'est pas toi qui as compris cela. C'est pas toi qui as compris. C'est mon Père qui te l'a révélé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire. Moi, je trouve que quand même Pierre était disponible entre les mains du Saint-Esprit pour dire une telle vérité. Parce que Jésus va lui dire, ça ne vient pas de toi, Pierre, ça vient de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est passé en toi. Vous ne trouvez pas ça formidable, frères et sœurs ? Que l'Esprit de Dieu puisse se servir de gens comme Pierre, parce que ça va vous rassurer, il peut peut-être aussi servir de chacun de nous. Et ça, c'est déjà une pensée extraordinaire. Une disponibilité de Simon est réelle. C'est un homme qui ne comprend pas tout, qui se fait des illusions, mais qui est capable d'être transpercé et qui laisse passer le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, mes amis, à être non pas des pentecôtistes de nom, mais des pentecôtistes dont on doit reconnaître que le Saint-Esprit passe au travers d'eux. Ça, c'est plus important que tout. Et ce qui est formidable, c'est que quand le Saint-Esprit peut passer et parle au milieu de nous, il dit des choses merveilleuses. Il dit des choses vraies. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et les autres ont entendu, ils ont dit, oh là là, Jésus va applaudir, dire, Pierre, voilà. Je mets 10 sur 10, tu es formidable. Et Pierre, rassure-toi, ce n'est pas toi qui as trouvé cela. Je pense que bien souvent, nous aurons besoin de comprendre à quel point, si le Saint-Esprit ne parle pas et ne travaille pas en nous, nous n'arriverons pas à développer quelque chose d'efficace. Mais que Dieu soit béni quand le Saint-Esprit le fait, parce que ça, il peut nous rappeler, surtout ne te prends pas pour quelqu'un de bien. Derrière la pensée de Jésus, il y a un peu ça vis-à-vis de Pierre. Hein. Surtout Pierre, ne te prends pas pour le grand génie. Parce que c'est mon Père qui a travaillé pour te donner cette parole. Et je bénis Dieu parce que, vous savez, quelle école que celle de Dieu, où on apprend à savoir que tout ce qu'on fait de bien, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu. Quelle belle école ! Il va continuer. Et on va le poursuivre, Pierre. Moi, je crois qu'il ne faut pas le laisser comme ça. Pierre, c'est un être humain. Vous savez qu'un être humain, c'est quelqu'un qui a de l'émotion, des sentiments. Et Pierre, dans le chapitre, toujours dans le chapitre 16, mais un peu plus loin, il va montrer à quel point, effectivement, il y a en lui de l'émotion. Au chapitre 16, mais par contre, on va jusqu'au verset 23. C'est peu de temps après, d'ailleurs. Hein. Presque comme... Un moment terrible dans la vie de Pierre. Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem pour mourir. Aucun des disciples ne l'imagine ni ne l'accepte. Ils ne sont pas prêts. Et Pierre en particulier fait partie, comme les autres, de cette réaction contraire. Alors Pierre va prendre à part Jésus qui vient d'annoncer qu'il va être mis à mort par les sacrificateurs, les scribes, et il va lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur !» C'est curieux que Pierre prenne Dieu à témoin dans cette affaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il ne dit pas « ça ne me plaît pas, Seigneur, non, non, je ne suis pas d'accord ». Il dit « à Dieu ne plaise ». Parce que Pierre a commencé à comprendre qu'il vaut mieux mettre Dieu en avant plutôt que lui. Malheureusement, il va mettre Dieu à l'envers. « À Dieu ne plaise ». Et vous avez cette terrible réponse de Jésus se retournant qui dit à Pierre « arrière de moi, Satan ». Ah, on a beaucoup utilisé cette phrase après d'une manière traditionnelle. « Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quelle terrible émotion dans l'école de Pierre ce jour-là. Au fond, si Pierre a dit à Dieu ne plaise, on pourrait pas, il ne faut pas se tromper, c'est parce qu'il aime son Seigneur. Il l'aime. Il ne veut pas le perdre. Il ne veut pas que les choses se passent au détriment, à ses yeux, d'une catastrophe, d'un échec. Il l'aime, mais il l'aime mal. Et je dirais, Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme il faut. Parce que finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que parfois on aime mal le Seigneur. On l'aime, alors je vais prendre des arguments qui ne sont pas ceux du passage que je viens de dire, mais parfois qui peuvent exister. On l'aime parce que le Seigneur guérit. Et on dit « Amen ». On l'aime parce que le Seigneur m'a pardonné mes péchés. Amen. C'est vrai, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de mal là-dessus. Bon, mais si vous voulez, on l'aime parce que ça nous a apporté. Ça nous a profité. Et puis on est d'accord pour que ça soit une bonne publicité, après tout, ce que le Seigneur fait. On l'aime, mais parfois on l'aime mal. Derrière le « à Dieu ne plaise », il y a tout l'égoïsme humain. Pierre n'était pas encore en mesure et capable de comprendre à ce moment-là qu'il fallait que quelqu'un meure à sa place pour qu'il puisse avoir de l'avenir. Ça, il ne pouvait pas l'imaginer encore. Son esprit était fermé. Et je peux vous dire que derrière l'exemple de Pierre, je me dis « Seigneur, apprends-nous à dépasser nos émotions, notre affection limitée pour t'aimer plus profondément tel que tu veux nous entraîner. » Il y avait, si Jésus parlait de sa mort, ce n'était pas pour que les disciples n'aient pas le moral. Ce n'était pas pour que les disciples se mettent d'un seul coup à pleurer. C'est parce qu'il voulait leur montrer un chemin qui était le seul chemin pour eux de salut. Qu'ils ne le comprennent pas, Jésus savait très bien. Mais il voulait à tout prix ne pas les prendre au dépourvu. Il fallait qu'ils sachent qu'il y avait un sens pour sa mort sur la croix. Et dans l'émotion, Pierre n'arrive pas à comprendre cela. Pierre, il ne peut pas arriver à imaginer un Seigneur qui aime au-delà de tout ce qu'il imagine. Vous savez, je bénis Dieu parce que nous sommes comme Pierre. Parfois, nous aimons le Seigneur, mais nous l'aimons avec nos sentiments humains mal. Nous avons besoin d'être éclairés. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais dites donc, c'est dur, hein, à Dieu ne plaise, et puis en s'entendant de dire, arrière de moi, Satan. Oh, Jésus n'est pas en train de dire à Simon qu'il est possédé. Hein. Il est en train de dire, tu as les pensées des hommes. Et les pensées des hommes, Satan s'en sert. Il essaye de trafiquer, en quelque sorte, les cœurs humains. Mais tu ne dois pas penser comme cela. Tu dois penser comme la direction que je t'indique. Là encore, l'école est en train d'apporter un élément auquel Pierre a bien du mal à se soumettre. Alors il va aller. Alors, je ne vais pas citer tous les textes, mais il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est lorsque Pierre verra arriver l'échéance. La tension monte. On sent qu'à l'approche de la Pâque, quelque chose est en train de basculer. C'est quelque chose de terrible. Et Jésus va reprendre le message. Il faut que je meure. Et Pierre n'y tient plus. Je ne vais pas vous lire le passage, parce que vous connaissez. Quand tous t'abandonneraient, moi, vous connaissez la suite, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai la conviction que Pierre était sincère. Il était profondément sincère. Il y croyait plus que tout. D'ailleurs, il avait même une épée. Et il va s'en servir, enfin, on sait comment après. Hein. Mais Pierre, il était sincère, il fallait pas du tout faire du mal à son Seigneur, parce qu'il ne comprenait pas les plans de Dieu. Vous savez, je vais vous dire franchement, en ne prenant plus l'exemple de la croix, qui est l'immense sommet de l'amour de Dieu, mais en prenant simplement les plans de Dieu pour votre vie, ou pour notre vie, ou pour ma vie, moi je vais vous dire, j'étais loin de tout comprendre les plans de Dieu pour ma vie, par moments. C'est quand ils se sont déroulés que j'ai compris, mais après, seulement. Et ça, il faut savoir que Dieu se réserve la primeur dans la direction de notre vie. Dieu est celui qui nous précède. On aime bien parce qu'on se dit, s'il est devant, je ne crains rien. Mais s'il est devant, c'est aussi pour vous emmener, mes frères et sœurs, là où vous ne pensez pas aller. Et ça aussi, ça fait partie de celui qui nous précède. Et Pierre, quand bien même tous t'abandonneraient, moi, non, non. Seigneur, tu peux compter sur moi. Bon, on ne va pas aller plus loin pour... Je n'ai pas l'intention de vous dégrader Pierre. Moi, je vous dis, il était sincère. Comme nous sommes tellement sincères dans notre désir de servir le Seigneur et d'aller... Mais je vais, à ce moment-là, essayer de prendre un autre élément dans cette affaire, avant que d'ailleurs tout devienne catastrophique. Et on va voir dans Marc, au chapitre 14, et au verset 37... Alors, on a plusieurs passages, bien sûr, mais un élément qui est intéressant. On est maintenant dans les derniers moments. On est à Gethsémané. Le Seigneur a dit à ses disciples, priez, priez avec moi et pour moi. Il s'est un peu écarté. Et au verset 37, après un passage dont nous avons d'ailleurs dans les autres évangiles, notamment de Jean, des explications sur la teneur, il vient vers ses disciples, qu'il trouve... ou qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, c'est curieux, il s'adresse particulièrement à Pierre, vous avez remarqué, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est une parole prophétique, vous savez, que Pierre entendait là. Mais j'ai été étonné que Jésus s'adresse d'abord à Simon. « Simon, tu dors, tu es plein de bonnes dispositions. » Mais Simon, tu n'as pas réussi à simplement entendre le seul chemin que je te proposais. Prie, tiens-toi dans la prière. Simon va apprendre quelque chose dans ces moments-là. La faiblesse de sa chair. Il est peut-être quelqu'un qui a une foi authentique et que je ne remets pas en cause. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la foi de Simon, elle m'étonne. Elle est tout à fait réelle. Mais il a une chair et elle est faible. Et ça... Il a du mal à l'associer et à comprendre tout l'enjeu qui se dresse. Alors, il va y avoir cette terrible situation. Je n'ai pas besoin de vous repasser les passages. Vous connaissez l'histoire du coq qui chante. Vous connaissez l'histoire d'un Pierre qui pleure amèrement. Et moi, je me dis, Pierre vit la page la plus noire de son cheminement avec le Seigneur. Le plus noir. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si ce matin, je me suis dit, il faut prendre l'école de Pierre pour se faire du bien, c'est parce qu'il y a une démonstration dans cette histoire. C'est qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse transformer le mal en bien. Vous, vous n'y arriverez pas, moi non plus. Vous ne transformerez jamais le mal. Vous ne transformerez jamais la faiblesse. Vous ne transformerez jamais les choses misérables en choses sublimes. Celui qui transforme le mal en bien, c'est Jésus. Je dis cela parce qu'on sait comment après les choses vont tourner, nous on a beaucoup d'avantages. Mais je pense à cette situation extraordinaire. Dans Marc, on aurait pu prendre aussi cet autre passage qui s'associe à cette période où Pierre a besoin de comprendre à quel point il est faible dans sa chair. Marc, je lis les chapitres 9, les versets 5. On est dans un autre moment, mais vous allez voir comment Pierre réagissait. Ils sont sur une montagne. Ils viennent de voir la gloire de Jésus. Ils viennent de voir un entretien très particulier avec les deux grands de l'ancienne alliance, Moïse et Élie et Jésus. Et Pierre, prenant la parole au verset 5, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Je laisse la suite du récit, vous la connaissez, parce qu'en fait, Jésus lui dit, non, non, tu ne dresses pas une tente, on redescend, on revient, et on continue le travail. Et là encore, on retrouve bien le problème de la faiblesse d'un homme qui veut tout, qui veut le meilleur pour Dieu. Devant la gloire de Dieu, il dit, mais c'est formidable, il faut rester là. Vous savez, moi je bénis Dieu, quand Dieu nous visite ce matin, dans le moment de louange, nous fait du bien. Mais il ne faut pas quand même vous faire d'illusions. Vous n'êtes pas destiné à vivre toute votre vie dans l'Église. Il va falloir en ressortir tout à l'heure. Il va falloir suivre le Seigneur. Et il y a tellement d'événements comme ça dans ma vie où j'aimerais que ça s'arrête. Vous avez sûrement essayé de vous rappeler de certaines bénédictions particulières du Seigneur. Le Seigneur, le jour où il vous a rempli du Saint-Esprit, le jour où vous avez fait une expérience, vous avez obtenu une réponse. Non, Seigneur, c'est formidable, il faut que ça reste comme ça, ça y est, on est arrivé. Non, on n'est pas arrivé, on redescend. Et l'école que Pierre apprend tout doucement, c'est qu'on ne s'arrête pas avec Jésus sur une bénédiction. On en profite, on en tire parti et on continue. Et c'est le cas d'un Pierre qui est sur une montagne, mais c'est le cas aussi d'un Pierre qui va sombrer dans la déprime profonde de celui qui a renié son maître et qui avait dit « non, quand bien même tous t'abandonneraient, moi, non, non. » Vous imaginez comment Pierre a vécu les heures de la croix? Comment Pierre a dû vivre les jours de la crucifixion et du tombeau? Et comment Pierre a dû réagir lorsque, au matin du troisième jour, des femmes viennent me dire, alors on pourra peut-être s'étendre cet après-midi, mais des femmes viennent dire, le tombeau est vide, et un Jean nous l'a dit, il est ressuscité. Ouais, mais c'est des femmes. Il y a une chose qui est quand même grand, c'est que dans l'évangile de Jean, on s'aperçoit qu'il y en a deux qui se lèvent et qui se mettent à courir. Alors, on comprend quel est le premier, c'est le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Et puis le deuxième, c'est Pierre. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que ça démontre que dans la vie de Pierre, il y avait des jours terribles, noirs, mais il y avait un désir de reprendre le cours de la foi. Il y avait un désir chez Pierre de reprendre courage. Vous savez que ce n'est pas facile de reprendre courage quand on a pris une grande claque. Moi, je vous dirais franchement que je bénis Dieu pour l'exemple de Pierre. Parce que quand vous vous êtes trouvé dans la situation d'être plus bas que terre, d'avoir renié le maître, de l'avoir juré à trois reprises, et d'un seul coup, on vous dit, mais attends, le tombeau est vide. Ah ça, non, alors c'est quelque chose qui m'interpelle, je veux en avoir le cœur net. Reprendre courage quand on est tombé bien bas, c'est une des grandes qualités de l'école de Dieu, mes amis. Et ça peut peut-être vous étonner, mais si vous êtes arrivé de tomber très bas, n'oubliez pas une chose, Dieu est en train de faire quelque chose pour vous. Il veut que vous sachiez reprendre courage quand tout est noir. Et Pierre va courir un peu moins vite que l'autre qui est plus jeune, hein, et il va arriver. Mais il y a une chose que Pierre va faire, parce qu'il a envie de reprendre courage, c'est qu'il va oser entrer dans le tombeau. Et il va le voir vide, vide, il est bien vide. Il n'est plus là, son Seigneur. Alors, celui qui vient à son tour, à rentrer, mais qui est arrivé le premier, il nous a dit quelque chose, ils crurent. Ils crurent, mais ils sont repartis en se posant des tas de questions. Ils ne savaient pas trop à quoi ils croyaient. Il faut bien l'avouer, ils sont repartis vers les autres. Mais ils ont dit, bah oui, c'est vrai, elles ont raison, les femmes, le tombeau est vide, mes amis, la pierre a été roulée, vous vous rendez compte? Ils crurent, ils croient ce qu'ils voient. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu les voir et qui leur a dit, regardez, touchez mes mains, voyez mon côté, c'est moi. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont commencé à prendre conscience et que l'école commençait à prendre une classe supérieure. Il est ressuscité. Et oui, il y en a une, deux qui arrivent en courant et qui disent « Mais oui, il était avec nous sur le chemin. Il est ressuscité. Nos cœurs brûlaient. Et d'un seul coup, nos yeux l'ont reconnu quand il a célébré ce que nous avons célébré ce matin. Puissions-nous reconnaître le Seigneur après avoir été misérable parfois dans notre démarche. » Vous savez, l'école de Pierre est assez extraordinaire parce qu'elle passe par des moments difficiles. Mais il y a dans ce cœur-là le désir de reprendre toujours courage. Seigneur, il a dit une parole qui est extraordinaire bien avant, je vais y venir un instant d'ailleurs. Il a dit à un moment, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Je trouve ça c'est intéressant d'ailleurs de la part de Pierre, hein, de vouloir faire un peu les comptes et de dire, voyons, Seigneur, j'ai tout quitté, qu'est-ce que je vais toucher? C'est moi, hein, en homme du 21e siècle, qui parle comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas un petit peu de ça derrière. On a tout quitté, Seigneur. Alors, que va-t-il en être de nous? Jésus va le rassurer. Ne t'inquiète pas, Pierre. Il n'y a personne qui, quittant sa vie passée pour me suivre, aura à le regretter. Moi, je traduis ça comme ça très facilement. Vous irez voir le texte, c'est pas grave. Hein. Personne ne pourra regretter d'avoir suivi Jésus. Moi, je trouve que c'est quand même encourageant, vous voyez pas, l'école de Dieu. Parce que vous pourriez... Il y a des gens, parfois, que j'ai vus avec une souffrance, une difficulté. Ils sont là et continuent d'avoir un passé. Ils disent, ah ouais, mais vous savez, dans le temps, si vous saviez ce que j'étais... Moi, je vais vous dire, on ne regrette jamais de suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas dans l'illusion, c'est dans la réalité. Moi, je suis convaincu que ma vie a pris de la valeur et que ça vaut la peine de vivre avec Jésus et que j'aurais tout raté à ne pas prendre cette vie-là. Je ne regrette rien. Que Dieu vous aide. Amen. Et oui, et alors, vous allez me dire, ça continue. Volonté de reprendre espoir, elle est incroyable. Pierre va reprendre progressivement. Et puis, il va se passer... Alors, il y a des choses que je vais presque vous passer sous silence. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va être devant le moment où le Seigneur va quitter cette terre. Et c'est le seul moment, d'ailleurs, et je me réjouis d'ailleurs, où il nous est dit que les disciples repartirent joyeux. Parce que quand, avant, le Seigneur disait « Je dois mourir », on disait « Non, 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 on ne veut pas entendre ça, tais-toi, arrête, tais-toi, on ne veut pas entendre ça ». Mais quand ils ont réalisé qu'il était ressuscité et qu'il montait au ciel, alors ils se sont dit « Non, là on est tranquille, il reste avec nous et il est vivant ». Ils avaient compris, enfin, et Pierre faisait partie de ceux-là. Alors ils vont repartir, ils vont attendre et il va y avoir l'événement que vous connaissez, le Saint-Esprit va venir sur eux. Et alors ce qui est extraordinaire, je vous pose presque la question, je me la pose, est-ce que moi, à la place des 120, quand le Saint-Esprit les a tous remplis, j'aurais dit « Pierre, t'es franchement le mieux qualifié pour parler ». Je ne suis pas sûr que si ce n'était pas le Saint-Esprit qui avait dirigé les choses, humainement, on aurait choisi Pierre. Pierre, on aurait dit, tu sais, on a l'habitude avec toi. T'en as dit des choses, mais alors après... Eh oui, vous savez qu'il y a des fois des gens qui vous collent le passé sur le dos. Ça vous est arrivé, ça? Il y a des gens qui vous rappellent le passé. Mais il y a une chose que ces autres avaient bien compris, remplis du Saint-Esprit, c'est que maintenant, ils étaient des hommes et des femmes nouvelles. Alléluia! Et on n'avait pas le droit de rappeler le passé de Pierre, le mauvais passé, pour dire « Non, Pierre, surtout pas toi, hein, avec toi, on s'attend à tout. » Et Pierre a parlé. Alors, vous savez, c'est quand même pas rien d'être le premier prédicateur qui s'élève le jour de la Pentecôte, et il y en a 3000 qui se convertissent. Vous auriez envie d'une situation comme ça, vous, hein? Je suis sûr que ça, tout le monde signe. « Ah ouais, moi je veux bien, hein, là ça va. » Et oui, Pierre devient l'homme qui accomplit une chose extraordinaire. Il a réalisé beaucoup de choses. Attendez, ne croyez pas qu'il a tout compris. Il est capable de parler le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, et de voir 3000 personnes se convertir. Mais quand Dieu lui dit « Dis donc, tu vas aller voir le corroyeur. » Ou alors « Tu vas aller voir un centenier. » Là, Pierre dit « Non, 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 Seigneur, moi je ne suis pas comme ça. » Vous voyez, l'école de Dieu, ça a besoin... Même une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes encore à l'école de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un peu ce passage. Je me suis dit, il ne faudrait quand même pas croire qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, il est parfait, il est arrivé au bout, ça y est, il n'y a plus rien à ajouter. Non, non, il y a encore l'école de Dieu. Et même rempli du Saint-Esprit, eh ben Pierre, il avait besoin de comprendre comment le salut allait s'adresser et comment il allait devoir servir Dieu. Il n'avait pas tout compris. Et Dieu l'a aidé, et Dieu l'a béni, et en plus Dieu l'a béni de telle manière qu'il a obéi, mais quand il est revenu voir ses frères, ils lui ont dit « Non Pierre, tu fais n'importe quoi !» Alors il a dû justifier et dire « Mais attendez mes amis, pouvait-on refuser à ceux que Dieu remplissait du Saint-Esprit l'eau du baptême ?» Ah, quelle école que celle de Dieu, vous savez mes amis. Quelle école lorsque Dieu nous perfectionne sans cesse, point après point, jour après jour, au point que, et c'est par cela que j'aimerais terminer, eh bien, il arrive une fin. Je vais vous la proposer, cette fin. Elle est dans la deuxième lettre que Pierre écrit aux chrétiens de son temps, avec d'ailleurs l'aide de Marc. Pierre est un homme usé. C'est un homme qui maintenant va être, qui est diminué dans la souffrance, dans la faiblesse. Et il sait que pour lui, le moment est venu. Quand vous lisez cette deuxième lettre, vous n'avez aucun doute. Pierre sait très bien que maintenant, pour lui, le moment va être de partir. Il va être martyr, il va être brisé, il va être tué. Mais Pierre est l'homme qui a atteint le but de sa vie. L'école s'est poursuivie. Alors il dit une chose que j'apprécie, je vais vous la dire. Il écrit cette dernière lettre où il y a des enseignements formidables et il commence par cette parole « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». je vais m'arrêter là, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que cette manière de commencer, elle est extraordinaire. Vous savez que littéralement, le mot serviteur dans nos Bibles, c'est en fait le mot esclave. Et vous n'avez pas d'erreur si vous lisez Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. Voyez-vous, j'ai parlé de quelques... J'aurais pu en citer encore d'autres exemples. Elle est riche, hein, d'éléments, la vie de Pierre. Mais Pierre, il a été à l'école de Dieu, il a grandi tout doucement. Il est à Rome, il va mourir pour sa foi. Il va mourir. Et peut-être que des hommes qui auraient été tentés de ne pas être passés par l'école de Pierre auraient pu dire « Moi, Pierre, l'apôtre qui a prêché le jour de la Pentecôte !» Vous savez, quand j'ai remarqué une chose, c'est que parmi les humains, parfois, quand Dieu fait des choses remarquables, après on les cite par rapport à leurs exploits. « Oh, tel homme, il a prêché à des milliers de personnes, il a fait ceci !» C'est nous les hommes qui avons peut-être, hélas, bien des faiblesses dans ce domaine. On devrait mesurer un peu les choses. Simon, Pierre, ce n'était pas l'apôtre de la Pentecôte. Ce n'était pas l'homme qui avait ouvert l'église, à l'église de Jésus-Christ les premiers milliers d'âmes et puis qui avait vu se poursuivre là. Non, c'était le serviteur, l'esclave de Jésus-Christ. Quelle école, quel niveau spirituel remarquable de l'homme qui va mourir pour son Seigneur, comme il le sait, ça lui a été annoncé, et qui se déclare comme esclave de son Seigneur, simplement. Il n'y a pas de titre humain, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de retour sur la gloire, il y a le bonheur d'être simplement le serviteur, l'esclave de Jésus-Christ. Vous savez, notre vie va être faite d'une école remarquable jusqu'au bout. Mais si j'ai une prière ce matin, et j'aimerais la partager avec vous, Seigneur, que nous puissions dire à la fin, voici ton serviteur, ton esclave, il est là. Il a connu des bons et des moins bons jours, il a connu des enseignements qu'il a eu du mal à retenir, mais il est arrivé et il s'approche de toi. Toute la vie chrétienne a quelque chose de formidable, et j'aimerais terminer par cela. C'est que si on a compris le sens de l'école de Dieu, on ne s'ennuiera jamais. Parce que figurez-vous que demain, j'ai quelque chose à apprendre. Et vous aussi. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été bien saisi. Et Dieu le prépare et il va faire. Alors dans des circonstances de votre vie, dans des événements de votre vie. Et tantôt, vous allez être glorieusement rempli du Saint-Esprit. Et vous allez dire, ah, formidable. Tantôt, vous allez vous sentir tout petit. Moi qui croyais être arrivé à un niveau spirituel, j'en suis encore à ce niveau-là. Ça, c'est terrible. Mais ça ne fait rien. Dieu est en train de construire le serviteur qui viendra. Une parabole extraordinaire de Jésus, c'est de recevoir des hommes à qui il est dit, entre bon et fidèle esclave. Tu as servi ton maître. Que Dieu vous aide et que Dieu nous aide. Nous sommes à l'école de Dieu. C'est une école qui est en cours. Moi, je me suis dit, je prends la marche ce matin. Je ne sais pas à quel niveau ils en sont ou à quel niveau j'en suis, mais ce n'est pas fini. Et c'est ce qui me donne beaucoup de joie ce matin dans le Seigneur. Il est en train de construire et il construit encore pour la gloire de son nom. Amen.